Ya vos es.
Quand le jazz est, quand le jazz est là, la java s'en va.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Écho des Choucas 103.7 consacrée à l'histoire du jazz. Aujourd'hui, épisode numéro 31, toujours basé sur l'ouvrage de Lucien Malson aux éditions du Seuil, Histoire du jazz et de la musique afro-américaine, paru en 1994 dans la collection Solfège. Comment définir le bebop ? On comprend bien qu'il est difficile d'écrire un style artistique et pour être peut-être encore plus s'il s'agit d'un style musical. Surtout lorsqu'il s'agit d'une évolution, pas d'une révolution. C'est pas une rupture franche. Et on va en écouter, en guise d'apéritif, les cacahuètes salées de Dizzy Gillespie. C'était donc Dizzy Gillespie dans Les Cacahuètes Salées, Salt Peanuts. Nous sommes en 1945, la guerre vient de se terminer, la situation des Noirs s'est un petit peu modifiée grâce au conflit, car beaucoup d'entre eux sont allés dans les États du Nord, où ils ont travaillé dans les industries mécaniques ou d'armement. La proportion des ouvriers non agricoles de couleur atteint 38%. Et au nom de leur participation à la guerre, ils attendent beaucoup des promesses libérales du président Roosevelt. Ceci influe naturellement sur l'état d'esprit et l'attitude esthétique des musiciens de jazz. Avant d'entrer dans une tentative de définition du bebop, laquelle sera de toute façon incomplète, revenons à l'un de ses prophètes et on écoute Hot House de Charlie Parker. C'était Hot House de Charlie Parker. Avant de parler de l'évolution du langage musical dont je parlerai au cours de cette émission et des suivantes, il faut se poser la question des causes de cette évolution ou révolution musicale. Et il me semble que la première, c'est l'émancipation de certains instruments, jusque-là confinés à l'accompagnement. Et Par conséquent, la recette consistant à sortir des big bands et donc d'avoir des formations musicales plus restreintes où la place des artistes individuels est beaucoup plus prépondérante. La salle de concert du Minton's Club à Harlem a été ce qu'aujourd'hui on appellerait un incubateur d'une nouvelle pratique de jazz. Le 26 novembre 1945, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Max Roach et Curly Russell enregistrent Coco, une version méconnaissable du Cherokee de Ray Noble et du Coco que l'on a entendu dans une émission précédente avec l'orchestre de Duke Ellington. Voici cette version de Coco de 1945. Coco, enregistré en 1945 avec Charlie Parker au saxophone, Dizzy Gillespie à la trompette, Max Roach à la batterie et Curly Russell, contrebassiste. À noter le rythme, le traitement rythmique de la mélodie et de l'harmonie qui sont un véritable pied de nez au style mainstream qui précédait le bebop. Vous êtes sur Radio Écho des Choucas 103.7. Le Coco de 1945, c'est une sorte d'archétype du style bebop, une batterie complexe qui cherche un rôle à la fois rythmique et harmonique. Les phrasés et tempi du saxophone et de la trompette, qu'aujourd'hui on pourrait presque qualifier de déjantés, c'est cela la soupe bebop, et on reprend une couche avec les mêmes dans « Now's the Time ». C'était Now's the Time, joué par les mêmes, donc Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Max Roach, Curly Russell. Le principal ingrédient du bebop, c'est la liberté, donc l'improvisation. C'est le refus du conventionnel et des sempiternelles reprises de thèmes du musical. Et on va revenir avec le saxophoniste Charlie Parker dans ce morceau intitulé Red Cross, la Croix-Rouge. Eh oui, carrément. Charlie Parker dans Red Cross. Je vous ai parlé il y a quelques minutes du Minton's Club. Le Minton's Playhouse est un club de jazz de Harlem ouvert en 1938 par le saxophoniste Henry Minton. Minton a été le premier délégué syndical noir de l'American Federation of Musicians. Il a instauré dans son club des jam sessions, bah en français on dirait des bœufs, une activité interdite par le syndicat, mais qui ont permis des rencontres, voire des duels d'instruments entre musiciens de différentes générations. Ces jam sessions qui ont contribué à l'éclosion du bebop. Quelques caractères du langage du bebop du début. Une pulsation réduite à la contrebasse et à la cymbale, les autres instruments n'hésitant pas à marquer les temps faibles. L'utilisation d'accords mineurs ou de quintes diminuées, le tempo souvent nerveux avec l'usage de la syncope et du triolet. On revient à la musique et on va écouter Charlie Parker et Dizzy Gillespie dans Groovin' High, enregistré à Carnegie Hall le 19 septembre 1947. Ils sont avec John Lewis au piano, Al McKibben à la contrebasse et Joe Harris à la batterie. Groovin' High. Thank you. tête, Charlie Parker et Dizzy Gillespie dans Groovin' High. Et je rectifie une petite erreur, ce n'était pas le 19 septembre 1947, mais le 29 septembre. Un concert dont on reparlera bientôt, vu son contenu. Dans ce même concert, ils vont enregistrer un autre morceau qui s'intitule « Dizzy Atmosphere » qui, comme son titre l'indique, est composé par Dizzy Gillespie. Voici « Dizzy Atmosphere ». Dizzy Atmosphere, joué par un quartet comprenant Dizzy Gillespie, Charlie Parker, John Lewis, Al McKibben, ah, j'en oubliais, ils étaient cinq en fait, et Joe Harris à la batterie. Eh bien, c'est fini pour cette semaine, mais vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les précédentes en podcast sur radio-rec.fr. Donc à la semaine prochaine et on continuera à découvrir ce qu'est l'univers du bebop. Bonne soirée.